1 Pierre chapitre 1. Je vais lire les versets 17 à 20. 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 20. Je vais faire cette lecture, vous me suivez. La parole de Dieu dit ainsi: Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de l'œuvre missionnaire, après la présentation de l'œuvre missionnaire à Mayotte, et nous allons voir un message en relation avec l'œuvre missionnaire. Nous allons prier. Merci Seigneur encore pour cet instant que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le temps, Seigneur, pour te parler à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la prière, Seigneur. Maintenant, nous voulons que ce soit toi qui nous parles à travers ta parole, Seigneur. Sensibilise nos cœurs et que ton Saint-Esprit puisse faire l'œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui un panorama biblique de l'œuvre missionnaire. On va parler de l'œuvre missionnaire. Et si on se demande qu'est-ce que l'œuvre missionnaire, et qu'est-ce que l'œuvre missionnaire, et ça serait difficile, un message, et de pouvoir résumer ce qu'est l'œuvre missionnaire. Et il y a des livres entiers, des gros livres qui ont été écrits. Donc ce sera pas un message que nous allons pouvoir détailler sur l'œuvre missionnaire, mais des questions. Quelle relation l'œuvre missionnaire avec l'Église? L'Église doit-elle vraiment participer dans l'œuvre missionnaire? Quelle place l'œuvre missionnaire doit-elle avoir dans l'Église? Donc, avec toutes ces questions, aujourd'hui, nous allons voir un panorama. Si ça existe le mot panorama? Oui, un panorama biblique et de l'œuvre missionnaire. Donc, c'est comme avec un télescope, et nous allons voir dans la Bible le plus loin possible par rapport à l'œuvre missionnaire, mais aussi nous allons focaliser le plus près possible sur l'œuvre missionnaire. Donc, pour parler de cette œuvre missionnaire, je vais donner une définition. Et qu'est-ce que l'œuvre missionnaire? L'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice du Dieu trinitaire depuis l'éternité jusqu'à l'éternité pour le salut du monde par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice du Dieu trinitaire depuis l'éternité jusqu'à l'éternité pour le salut du monde à travers la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, avec cette définition, je vais montrer sept étapes différentes au sujet de ce panorama biblique et sur l'œuvre missionnaire. Premièrement, l'œuvre missionnaire est une œuvre rédemptrice planifiée par Dieu depuis l'éternité. C'est une œuvre rédemptrice planifiée par Dieu depuis l'éternité. Dans le verset que nous avons lu, dans le verset 19-18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et l'œuvre rédemptrice de Dieu, l'œuvre missionnaire, et ce n'est pas quelque chose qui a été planifié au temps de Jésus, et au temps de l'Église. Et quand, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, et lorsqu'il a réuni l'Église avant de partir, et c'est pas là où ça a été décidé le salut du monde. Et c'est pas là où Jésus a dit, il y a un monde à gagner, donc vous allez partir dans le monde, et vous allez prêcher l'Évangile, et dans tout le monde. Et c'est pas à ce moment-là, qu'a été planifié le salut du monde. C'est pas à ce moment-là qu'a été planifié l'œuvre rédemptrice, l'œuvre missionnaire, de Dieu. C'est même pas dans l'Ancien Testament, même si on va voir dans l'Ancien Testament des références par rapport à l'œuvre missionnaire. Non, comme nous dit le verset, c'est avant la fondation du monde, depuis l'éternité. Comme nous dit le verset, prédestiné avant la fondation du monde. Donc cette œuvre missionnaire, l'œuvre missionnaire de laquelle on est en train de parler, cette œuvre rédemptrice du monde, est née dans le cœur de Dieu avant que l'homme n'existe, avant que le monde n'existe, avant que l'univers n'existe. Cette œuvre rédemptrice est née dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Dans l'éternité, et avant que tout ne fût créé, lorsqu'il n'y avait seulement Dieu, le Dieu trinitaire. Donc, cette Trinité prévoyait, planifiait de s'acquérir un peuple, de s'acquérir un peuple humain et racheté, pour vivre, toute l'éternité avec Dieu, avec la Trinité. Et donc ça a été planifié. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais 7-8 ans dans le village où on habitait là-bas dans la Lozère. Et il y avait un homme, tous les étés, il venait avec une fourgonnette et il prenait une quinzaine d'enfants et il nous amenait dans la campagne à Herbouze dans une ferme, et il avait une ferme, et c'est qu'après que j'ai compris, beaucoup plus tard, que c'était un missionnaire. Donc, il nous amenait là-bas, dans la campagne, à Herbouze, et on passait toute la journée là-bas, on jouait, on mangeait, et bien sûr, il y avait des histoires, et on chantait des histoires de la Bible, et je me rappelle qu'il y avait un livre jaune, j'ai toujours cette image gravée, un livre jaune pour enfants, et la première page, montrait une silhouette d'un homme assis sur une table comme sur une table d'architecte. Et là, il y avait plein de plans, de dessins, de plans et tout ça. Et tout ça, c'était pour montrer Dieu qui était en train de planifier la création du monde. Et là, on parle de avant la création du monde. Et avant de planifier la création du monde, et Dieu avait déjà planifié l'œuvre missionnaire, avait déjà planifié l'œuvre rédemptrice pour sauver le monde. Donc, premièrement, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice planifiée par Dieu depuis l'éternité. Deuxièmement, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice préparée par Dieu. Non seulement elle a été planifiée par Dieu, mais cette œuvre missionnaire a été aussi préparée par Dieu. Le verset 19 nous dit, mais 18. Ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et par le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, Dieu savait qu'il allait créer l'homme, et Dieu créerait l'homme, et dans sa toute puissance, Dieu allait créer l'homme, et dans son omniscience, et Dieu savait que l'homme pécherait, et l'homme savait que l'homme pécherait dans sa omniscience, et donc la sainteté de Dieu, et la sainteté de Dieu exigerait un jugement, un jugement est sur le pécheur. Et c'est la sainteté de Dieu qui ne peut pas tolérer le péché. Donc la sainteté de Dieu exigerait un jugement sur le pécheur, et la justice de Dieu, et la justice de Dieu qui est juste, et condamnerait l'homme pécheur, et condamnerait leur pécheur à cause de la justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Et si Dieu ne, et si la loi de Dieu elle disait que celui qui pêche devait mourir, donc Dieu dans sa justice elle devait condamner l'homme, mais dans sa grâce Dieu prévoirait un salut gratuit, pourvoirait un salut gratuit pour l'humanité, et la miséricorde de Dieu allait pardonner l'homme justifié, et l'homme qui serait justifié, et donc dans son amour Dieu enverrait Dieu le Fils sur cette terre pour être la victime propitiatoire, et comme propitiation, et comme sacrifice, et comme sacrifice parfait pour pouvoir satisfaire les exigences de la sainteté de Dieu, et pour pouvoir satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Et donc dans sa souveraineté, Dieu dirigerait toutes ces choses et toutes ces choses afin que ce qui a été planifié et ce qui a été préparé puisse être mené à bien comme Dieu comme cela se devait faire. Donc le monde allait avoir besoin d'un rédempteur, et l'homme allait besoin d'avoir un rédempteur, le monde allait avoir besoin d'un sauveur, et donc Dieu avait préparé le sacrifice parfait. Et depuis l'éternité, Dieu non seulement avait planifié l'œuvre missionnaire, mais aussi il avait préparé pour que l'œuvre missionnaire puisse se faire. Parce que sans rédempteur, il ne pourrait pas y avoir de salut pour l'humanité. Donc, nous voyons tous les attributs de Dieu qui se révèlent et qui se manifestent. Et dans la préparation, aussi bien dans la planification, dans la préparation de cette œuvre rédemptrice, de cette œuvre missionnaire. Donc, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice planifiée par Dieu, c'est une œuvre rédemptrice préparée par Dieu, mais aussi, troisièmement, l'œuvre missionnaire, c'est une œuvre rédemptrice prophétisée par Dieu. Et nous allons dans Genèse chapitre 3. Je vous invite là-bas à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15 dit: L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans cette histoire, tout le monde connaît cette histoire, et le diable venait de faire pécher, venait de faire pécher Adam et Ève, et le diable avait apporté le péché sur la terre, et donc ce qui avait amené la condamnation de l'homme, et ce qui avait amené la mort spirituelle, et la séparation de l'homme avec Dieu à cause de ce péché qui était entré dans le monde à cause du diable, et ceci était déjà prévu, et ceci était déjà prévu, et non seulement était prévu par Dieu, mais était permis par Dieu, et selon le plan de Dieu. Donc face à cet événement qui s'est réalisé dans le jardin de l'Éden, donc un rédempteur était nécessaire. L'homme avait péché. Le péché était rentré dans l'homme, le péché était rentré dans l'humanité, et le péché avait, de la même manière que le péché était rentré dans l'homme, la mort et le salaire du péché était aussi rentré dans l'homme et dans toute l'humanité. Donc il était nécessaire d'un rédempteur. Et dans ce verset, Dieu nous prophétise sur ce rédempteur. Elle nous prophétise sur ce rédempteur et nous dit que ce rédempteur sera tout puissant. Il était nécessaire que le rédempteur soit tout puissant et pour qu'il puisse écraser la tête du diable, et que il était nécessaire que le rédempteur soit tout puissant et pour qu'il puisse mettre fin au règne du diable, et mettre fin au règne du péché, et mettre fin au règne de la mort, et à travers la croix et la résurrection de Jésus. Et donc ce passage nous parle de ce rédempteur qui viendrait pour finir avec le règne du diable et du péché de la mort, mais aussi dans ce verset est prophétisé que ce rédempteur devait avoir la même nature de celui qui allait sauver. C'est-à-dire être humain et de postérité de la femme. Il était nécessaire que ce rédempteur soit humain afin d'être la substitution parfaite pour l'homme. Parce que la justice de Dieu réclamait la mort de l'homme à cause du péché. Il était nécessaire que l'homme meure à cause du péché. Mais au lieu que ce soit nous les hommes qui meurent, Jésus, en prenant la forme humaine, en étant homme, prenez donc le jugement de Dieu sur nous. Donc Dieu, dans ce verset, après avoir planifié l'œuvre missionnaire, l'œuvre rédemptrice, après avoir préparé l'œuvre, nous prophétise que ce rédempteur qui viendrait sauver le monde, non seulement serait tout puissant, mais il serait aussi humain, afin d'être le substitut parfait pour nos péchés. L'œuvre rédemptrice a été planifiée par Dieu, a été préparée par Dieu, prophétisée par Dieu. Quatrièmement, cette œuvre missionnaire aussi, elle a été promise par Dieu dans le chapitre 12 de Genèse. Nous avons l'alliance est des plus importantes de la Bible, l'alliance avec Abraham. Chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, nous avons une des alliances les plus importantes de la Bible et aussi les promesses les plus belles de la Bible. Bon, Dieu fait une alliance avec Abraham et lui promet qu'il va lui donner une terre à lui et à ses descendants, et la terre de Canaan. Et Dieu lui promet une terre, mais aussi il lui promet une descendance, une grande descendance, et une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et donc Dieu fait ses promesses à Abraham, mais la promesse qu'il fait à Abraham la plus importante, et ce n'est pas la terre, et la promesse la plus importante que Dieu fait à Abraham, et ce n'est pas la descendance qu'il aurait, sinon c'est la dernière partie du verset 3. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu voyait déjà, le salut de l'humanité. Et Dieu voyait déjà apporter le salut. Et Dieu promettait déjà à Abraham et que toutes les nations de la terre et toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et cette promesse de salut universel, et cette promesse de salut de toutes les familles de la terre, de toutes les nations de la terre, était tellement importante pour Dieu vis-à-vis d'Abraham, et que dans le verset 18, il le répète, dans le chapitre 18, il lui dit, encore Abraham, et dans ta postérité, et toutes les nations de la terre, et seront bénies dans ta postérité, et encore dans le chapitre 22 de Genèse, Dieu encore ratifie, cette promesse, cette alliance avec Abraham, et que toutes les familles de la terre elles seront bénies en lui. Et cette promesse, elle est tellement importante que dans le chapitre 26 de Genèse, maintenant, Dieu ratifie cette promesse avec Isaac. Et il lui dit la même chose qu'avec Isaac, qu'en lui, en sa postérité, et en sa descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Et ensuite, dans le chapitre 28, avec le petit-fils d'Abraham, avec Jacob, et Dieu ratifie encore cette promesse avec Jacob en lui disant que dans sa descendance, avec sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc Dieu déjà, avec Abraham, dans l'alliance avec Abraham, Dieu déjà promettait le salut de l'humanité. Et Dieu promettait à Abraham cette œuvre missionnaire. Et on est en train de parler de cette œuvre missionnaire, de cette œuvre rédemptrice. Et dans l'humanité, nous voyons à quel point cela tenait à cœur. Et cela tenait à cœur à Dieu et le salut. Et le salut de l'humanité. Et Dieu l'avait promis à Abraham, et à Isaac et à Jacob, parce que c'était quelque chose de très important pour Dieu. C'était ce qui occupait la place et dans le cœur de Dieu. Donc, l'œuvre rédemptrice planifiée, préparée, prophétisée et promise par Dieu, mais l'œuvre missionnaire, c'est aussi une œuvre rédemptrice qui a été prévue par Dieu dans l'élection d'Israël. Et lorsque nous avons vu tout à l'heure qui disait que les nations de la terre seront bénies et dans la descendance d'Abraham, l'apôtre Paul est dans Galates 3:16 et nous dit que la descendance d'Abraham c'est Jésus-Christ. Et donc depuis le début dans la promesse que Dieu donne à Abraham, il voyait déjà la salvation du monde, le salut du monde à travers la semence d'Abraham qui est Jésus-Christ. Et ensuite quand il choisit l'élection d'Israël dans Exode chapitre 19, l'œuvre missionnaire, l'œuvre rédemptiste était aussi prévue dans l'élection d'Israël. Exode chapitre 19. Versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, nous savons que Dieu a choisi un peuple. Et Dieu a choisi un peuple sur cette terre et il a choisi le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, comme je disais, c'est son trésor spécial. Et c'est le peuple. Et il a choisi ce peuple. Et il a choisi ce peuple pour être son peuple. Et comme nous dit le verset 6, une nation sainte. Et non seulement Israël devait être le trésor spécial de Dieu, mais il devait être aussi une nation sainte, c'est-à-dire une nation séparée par Dieu, séparée pour Dieu, une nation sanctifiée par Dieu, une nation sanctifiée pour Dieu. Et donc Israël devait être une nation à part. Elle devait être une nation différente et de toutes les autres nations, parce que c'était le peuple de Dieu, le peuple qui suivait et qui connaissait le seul et l'unique vrai Dieu. Mais Dieu ne voulait pas seulement d'Israël que ce soit son peuple spécial. Il ne voulait pas seulement d'Israël que ce soit un peuple saint, hein, un peuple séparé. Mais il nous dit aussi le verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs ». Et ça, c'était le projet de Dieu dans l'élection d'Israël. Israël devait être un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Et Israël, en tant que nation, elle devait être une nation médiatrice entre Dieu et les hommes. Et la responsabilité d'Israël était de faire connaître aux autres nations que l'Éternel était le seul, unique, le vrai Dieu. Et en tant que royaume de sacrificateurs, Israël devait faire connaître aux autres nations que l'Éternel était le seul Dieu. Dieu avait prescrit, Dieu avait ordonné et Dieu avait déterminé qu'Israël serait un instrument dans ses mains pour que les autres nations puissent connaître Dieu. Donc nous voyons depuis l'éternité, Dieu a toujours eu ce désir de sauver le monde et a toujours eu ce désir de cette œuvre rédemptrice et de cette œuvre missionnaire. Et Israël, en tant que nation, avait cette responsabilité de faire connaître Dieu, de faire connaître l'Éternel aux autres nations, à tel point, comme nous dit Ézéchiel 5:5, nous dit que Dieu a mis Jérusalem au milieu des nations, et Dieu avait mis Israël au milieu des nations, où toutes les routes, les plus grandes routes commerciales, traversaient à travers d'Israël, et dans le but que Israël devait faire connaître à toutes les autres nations, en tant que royaume de sacrificateurs, devait faire connaître l'Éternel à toutes les autres nations, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a toujours désiré, et c'est ce que Dieu désirera toujours, le salut de l'humanité, l'œuvre rédemptrice de l'humanité, l'œuvre missionnaire qu'on est en train de parler, et ça a toujours été le désir, le dessein de Dieu depuis l'éternité. Et lorsque nous voyons non seulement dans l'élection du peuple d'Israël, et vous rappelez quand Israël a été amené d'esclave en Égypte, a été esclave en Égypte pendant de nombreuses années, et quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, quand il a jugé, il a puni Pharaon, et donc quand il a puni Pharaon, Exode 9 nous dit que quand il a puni Pharaon, bien sûr, il l'a fait parce que il avait esclavisé le peuple de Dieu. Et Dieu a puni Pharaon parce que il avait, à cause de son arrogance, à cause de son arrogance et de son orgueil, qu'il a osé défier l'Éternel. Mais aussi, Exode 9 nous dit que Dieu a puni Pharaon, a exercé un jugement sur Pharaon pour que toutes les autres nations puissent connaître que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Donc même dans ce jugement que Dieu a exercé sur Pharaon, le désir de Dieu, le désir était de Dieu que toutes les autres nations pouvaient connaître que lui était l'Éternel, le seul Dieu. Et Pharaon, c'était pas qui? Pharaon, c'était l'empereur, c'était le roi, c'était le plus grand qui pouvait exister dans ce monde, dans le monde de ce temps-là, et c'était l'empire, c'était l'empereur, et donc Dieu, en punissant Pharaon, les autres nations sauraient ce qui se passait, et le but de cette punition, de ce jugement sur Pharaon, c'était que les autres nations puissent connaître que l'Éternel est Dieu. Et ça a été toujours le désir, le dessein de Dieu, et dans ce qu'il faisait, que toutes les nations puisse connaître qu'il est le seul Dieu, le vrai. Parce que Dieu a toujours eu le désir de sauver l'humanité. Lorsque Salomon a construit le temple, le plus grand, le plus beau temple qu'il y a eu, et dans la dédication du temple, Salomon, dans la prière, dit que ce temple a été édifié, non seulement pour que le peuple d'Israël puisse venir adorer Dieu, mais aussi pour que toutes les autres nations puissent venir y adorer Dieu. Même dans la construction du temple à Jérusalem, Dieu voulait, Dieu désirait que les autres nations puissent venir adorer, l'adorer, le connaître et être sauvés. Et lorsque nous lisons le psaume, nous voyons combien le désir de Dieu, que toutes les nations viendront pour adorer Dieu. Et lorsque nous lisons les prophètes, nous voyons les prophètes qui nous parlent des nations qui vont venir adorer Dieu. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, dans l'esprit de Dieu, il y a toujours eu ce désir. Et ce désir de sauver l'humanité, et de sauver l'humanité. Et donc nous voyons comment que Dieu dans la Bible, et nous voyons comment que cette œuvre missionnaire depuis avant la fondation du monde est en train de prendre forme. Et une œuvre missionnaire qui a été planifiée, qui a été préparée, qui a été prophétisée, qui a été promise et qui a été prévue dans l'élection d'Israël. Et maintenant dans le point 6, nous rentrons dans le cœur. Et dans le cœur de cette œuvre missionnaire, et l'œuvre missionnaire, c'est aussi une œuvre rédemptrice programmée par Dieu pour l'Église. Et l'œuvre missionnaire, c'est aussi l'œuvre rédemptrice programmée par Dieu par l'Église. Et nous avons été au loin de l'œuvre missionnaire, mais maintenant nous venons auprès de l'œuvre missionnaire. Et nous connaissons tous les versets qui nous parlent de la grande commission, Matthieu chapitre 28, qui est verset 20, qui nous dit allez dans tout le monde et faites des disciples, dans toutes les nations. Marc 16 qui nous dit allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature, à toute la création. Et nous avons aussi Acte chapitre 1 verset 8 qui nous dit et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Donc nous voyons ce que nous connaissons comme la grande commission. Et la grande commission, c'est le programme. C'est le programme que Dieu a donné à l'Église. Et l'Église locale, et l'Église en tant que corps du Christ, et Christ en tant que chef suprême de l'Église, et cette institution, c'est cette institution que Dieu a choisie. Pour accomplir son plan, pour accomplir son dessein, pour accomplir son désir, pour accomplir sa promesse du salut de l'humanité à travers la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'institution que Dieu a choisie après avoir été racheté, après avoir été sauvé par le sang de Christ. Quel meilleur plan Dieu pouvait-il trouver que utiliser les sauvés, ceux qui sont sauvés, pour sauver d'autres personnes? Et ça c'est le plan de Dieu. Et il ne peut pas y avoir meilleur plan de Dieu que utiliser les sauvés pour que ceux-là puissent être instrument pour sauver d'autres personnes. Et c'est l'opération du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à nous, non seulement nous régénère, mais nous donne aussi la faculté, et nous donne la capacité, et nous donne la possibilité de nous reproduire spirituellement. Et non seulement le chrétien peut se reproduire spirituellement, mais l'Église aussi peut se reproduire spirituellement. Et c'est comme les cellules dans le corps, et les cellules dans le corps que Dieu a créées. Et Dieu a créé le corps et les cellules. Et les cellules dans le corps, elles se auto-reproduisent. Elles se reproduisent. Une cellule reproduisent d'autres cellules, mais ces d'autres cellules qu'elles reproduisent, elles ont les mêmes caractéristiques et la même génétique, et la même génétique que la cellule. Et donc, ceux-là peuvent aussi se reproduire. Et donc, comme à chaque fois, ils ont les mêmes caractéristiques et la même génétique, donc ils se reproduisent. Et c'est la même chose pour le croyant, pour l'Église. Lorsqu'un croyant est converti, un croyant peut se reproduire à une autre personne. Une église peut se reproduire dans une autre église en laissant les mêmes caractéristiques et la même génétique spirituelle pour que cette autre église puisse se reproduire et ainsi de suite. Et c'est le plan merveilleux de Dieu d'utiliser les sauvés pour sauver les autres personnes. C'est le programme, le programme de l'église. Cela a commencé avec douze disciples, et aujourd'hui il y a un peu moins de milliards de sauvés dans le monde, mais le chiffre à retenir, c'est qu'il y a encore 7 milliards de personnes qui sont encore perdues. Donc cette œuvre missionnaire est de faire des disciples. Ce commandement de Jésus est de faire des disciples. Et ce commandement de Jésus de prêcher l'évangile dans tout le monde. Et ce commandement de Jésus d'être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce commandement-là, c'est le programme de l'Église. Et c'est le programme de l'Église, tout autre programme. Et le programme, un programme d'édification, le programme de croissance, et le programme de préparation. Et tous ces programmes-là ont le but de faire grandir le chrétien, et de qui puisse atteindre la maturité, qui puisse être à l'image du Christ. Et le but du chrétien, c'est de ressembler au Christ, et c'est d'être transformé à l'image du Christ. Et Christ, c'est un missionnaire. Christ, non seulement c'est le cœur de l'œuvre missionnaire, mais Christ a un cœur missionnaire, a une âme missionnaire. Et si Jésus, il a laissé son trône de gloire pour naître dans une crèche, dans une étable, et c'est à cause de son cœur missionnaire. Et Jésus, non seulement il est né avec un cœur missionnaire, mais il a vécu avec un cœur missionnaire. Il allait de ville en ville, et il prêchait l'évangile, il cherchait les âmes perdues. Et Jésus, non seulement il est né avec un cœur missionnaire, non seulement il a vécu avec un cœur missionnaire, mais il est mort sur la croix à cause de son cœur missionnaire, parce qu'il voulait sauver les âmes perdues. Donc Jésus, c'est l'âme, c'est le cœur missionnaire. Et nous, en tant que croyants, nous devons de grandir pour acquérir ce cœur missionnaire en tant que chrétien, en tant qu'église, afin d'accomplir le programme de Dieu. Et le programme de Dieu pour l'Église qui est de se reproduire, et de se reproduire de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que lorsque nous voyons l'œuvre missionnaire, et que voyons d'où vient l'œuvre missionnaire, comment qu'elle a été planifiée, et comment qu'elle a été préparée, comment qu'elle a été prophétisée, et comment qu'elle a été promise par Dieu, et comment qu'elle a été programmée pour l'Église. Et quand nous voyons cela, nous disons que l'œuvre missionnaire n'existe pas à cause de l'Église. Et nous croyons que l'œuvre missionnaire existe à cause de l'Église. Non! C'est le contraire. C'est l'Église qui existe à cause de l'œuvre missionnaire. Et si nous sommes là, c'est à cause de l'œuvre missionnaire et de ce qui a été planifié par Dieu. Nous sommes là pour pouvoir accomplir ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prophétisé, ce que Dieu a promis et ce que Dieu a programmé. Et c'est le programme de l'Église. C'est pour ça qu'une église, qui n'accomplit pas l'œuvre missionnaire, ne justifie pas son existence. Et une église qui n'accomplit pas l'œuvre missionnaire est hors de la volonté de Dieu. Car le programme de l'église, c'est l'œuvre missionnaire. l'Église doit est présente pour accomplir le dessein, le plan, la promesse de Dieu. Il y a un prédicateur qui disait, pourquoi Dieu a-t-il laissé l'Église sur la terre? Et pourquoi Dieu a-t-il laissé l'Église sur la terre? Est-ce que Dieu a laissé l'Église sur la terre seulement pour que nous puissions nous réunir et adorer, louer Dieu? Non, si c'était le seul objectif, Dieu nous aurait amenés au ciel, car là-haut, l'adoration, elle est sublime. Rien de comparé de ce que nous faisons sur la terre. Est-ce que Dieu aurait laissé l'Église seulement pour venir et louer seulement le Seigneur? Non, parce que la louange au ciel sera, on ne peut même pas la décrire, comment sera la louange dans le ciel. Et Dieu n'a pas laissé l'Église seulement sur la terre seulement pour servir Dieu, parce que là-bas au paradis, il nous aura amené avec lui, et là-bas au paradis, on pourra le servir face à face, ce qui sera beaucoup plus merveilleux de ce que nous faisons ici sur terre. Non, si Dieu a laissé l'Église sur la terre, c'est pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne peut pas faire au ciel, une chose qu'elle ne pourra jamais faire au ciel, et cette chose, c'est évangéliser. Cette chose, c'est l'œuvre missionnaire. Cette chose, c'est chercher les âmes perdues. Ceci, l'Église ne pourra jamais le faire au ciel. C'est pour cela que le programme de l'Église, et le programme de l'Église, comme nous le voyons dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Actes, et le programme de l'Église, c'est l'œuvre missionnaire. C'est l'œuvre missionnaire depuis Jérusalem, depuis sa Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le programme de Dieu pour l'Église. Donc l'œuvre missionnaire a été planifiée, c'est une œuvre rédemptrice, planifiée par Dieu, préparée par Dieu, prophétisée par Dieu, promise par Dieu, programmée par Dieu pour l'Église. Mais aussi, dernier point, l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre rédemptrice pactisée par Dieu pour toute l'éternité. Pactisé par Dieu pour toute l'éternité. Et les derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21, les derniers chapitres, verset 3, 21. Et j'attendis du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Et verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Ces derniers chapitres de l'Apocalypse, elle nous parle du point culminant de cette œuvre rédemptrice et de cette œuvre missionnaire où tous les rachetés du monde, où tous les sauvés du monde seront avec le Dieu trinitaire pour toute l'éternité. Et ceci est déjà pactisé par Dieu. Ceci est déjà assuré par Dieu. Ceci ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de l'Église, et ceci a dépendu seulement de Dieu, ne dépend seulement de Dieu, il ne dépendra seulement que de Dieu. Heureusement, et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons cette opportunité, nous avons ce privilège de collaborer, de participer dans cette œuvre rédemptrice de l'humanité en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Mais tout a déjà été assuré, pactisé par Dieu. Et comme nous voyons, l'œuvre missionnaire commence depuis l'éternité dans le cœur de Dieu. Et cette œuvre missionnaire est finie, se termine dans la maison de Dieu pour toute l'éternité. Elle commence dans le cœur de Dieu depuis l'éternité et se termine dans la maison de Dieu pour toute l'éternité. Pour terminer, l'œuvre missionnaire et donc l'œuvre rédemptrice de la Trinité, dans laquelle tous les attributs de Dieu se sont manifestés. La toute-puissance, la souveraineté, la sainteté, la justice, l'amour, la grâce, la miséricorde, la bonté, tous les attributs de Dieu sont révélés dans cette œuvre rédemptrice. l'œuvre missionnaire, nous savons que c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour notre gloire. Mais l'œuvre missionnaire n'est pas seulement pour la gloire de Dieu, non seulement, elle n'est pas seulement pour la gloire de Dieu, sinon que l'œuvre missionnaire nous révèle la magnificence de la gloire de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons contempler cette gloire de Dieu à travers cette œuvre rédemptrice, cette œuvre missionnaire. Et non seulement nous pouvons contempler cette gloire de Dieu dans cette œuvre, mais aussi nous devons nous réjouir de cette œuvre rédemptrice et de cette œuvre missionnaire en tant que chrétiens. Et en tant que chrétiens, non seulement nous devons contempler cette gloire, nous devons non seulement nous réjouir de cette gloire, mais surtout nous devons partager cette gloire avec les autres, depuis notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. À lui et à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.